France Inter.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 13-14. À la une du journal, un chiffre et des lettres, TF1 et le grand N de Netflix qui va diffuser la chaîne leader des audiences en France, toutes celles du groupe TF1 et les programmes de sa plateforme. C'est une première mondiale et un grand chamboulement dans l'écosystème de la télé. Explication à suivre. L'Iran ne se rendra jamais sous la pression. Première déclaration officielle du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, alors que la galaxie Trump se divise sur une éventuelle intervention contre l'Iran, on va l'entendre. Nous serons aussi en Israël qui interdit Thibault Lefèvre à ses citoyens de quitter le pays.
Oui, consigne de la ministre des Transports qui invoque des raisons de sécurité mais que beaucoup ici ne comprennent pas, vous allez l'entendre.
Merci Thibault. Tout de suite, un conclave pas conclu. Les concertations sur les retraites entre syndicats et patronats étaient bien parties. Sont-elles en train de mal se terminer? On le saura lundi prochain, réunion de la dernière chance. Tout le monde n'est pas sûr de revenir autour de la table. Au sommaire également, la chaleur. Les animaux sauvages aussi en souffrent. On leur distribue des glaces assez particulières dans ce zoo breton.
On va leur donner des glaçons à base de jus de sang. Ça va permettre, vu les fortes chaleurs là, de bien les rafraîchir.
Ils aiment les glaces autant que les humains.
Autant que nous.
Et bon appétit. Les trampolines, fausse bonne idée pour occuper les enfants. Trop d'accidents, dénoncent les médecins. Et puis c'est mercredi, on va au cinéma avec Alexis Demeyer et ses conseils de la semaine. À 13h30, notre invité représente les banques. On va parler arnaque, les faux conseillers, les SMS des faux livreurs, l'argent qui disparaît quand on s'y laisse prendre. Et c'est toujours plus difficile de ne pas se faire avoir. 01 45 24 7000 pour vos témoignages et vos questions à la présidente de la Fédération bancaire française. On passe la semaine avec une tatoueuse thérapeutique, c'est notre feuilleton, troisième épisode. C'est la France, Eric Fotorino, sommes-nous devenus le nouvel Eldorado des narcotrafiquants? Et puis c'est une chanson, Frédéric Pommier, avec le metteur en scène Mohamed Al-Khatib, qui nous fera écouter qui Oum Kalsoum, la diva égyptienne.
France Inter.
Viens chez moi, j'habite chez Netflix. C'est TF1 qui s'installe chez le géant américain du streaming. À partir de l'été 2026, les abonnés français de Netflix vont pouvoir regarder toutes les chaînes du groupe en direct et tous les programmes de sa plateforme TF1+, Koh-Lanta, HPI, The Voice. C'est la première fois que Netflix ouvre sa porte à un autre opérateur et TF1 est un mastodonte en France. Bonjour Xavier Demany.
Bonjour Florence.
C'est une révolution dans le monde de la télé, vous allez nous expliquer pourquoi, mais d'abord qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Xavier ?
Eh bien qu'on pourra regarder d'ici un an en direct TF1, LCI, TMC depuis l'environnement Netflix, et puis qu'au milieu des autres contenus de la plateforme, il y aura tous les replays de TF1, avec de la pub d'ailleurs, quel que soit le niveau d'abonnement. Jusqu'ici, les collaborations Netflix-TF1 s'étaient limitées à des coproductions depuis 2016 avec la série Marseille ou avec depuis lundi le démarrage d'un feuilleton quotidien, Tout pour la Lumière.
Et quel intérêt pour Netflix, Xavier, et quel intérêt pour TF1?
Alors, rien, évidemment, n'est dit des conditions financières de l'accord, mais ce sont vraiment deux numéro un qui s'associent. Pour TF1, chaîne gratuite, première sur le podium des audiences, 30 millions de spectateurs par jour, c'est l'accès à l'algorithme de recommandation de Netflix, mais surtout la promesse d'une distribution, d'une audience élargie, en plus de son propre site TF1+, et un public plus jeune qui boude la bonne vieille télé. Pour Netflix, plateforme payante, 10 millions de foyers abonnés en France, c'est la suite de sa diversification du sport, des émissions en direct, l'occasion de séduire un public peut-être plus âgé et de créer un service pratique et donc incontournable, quitte à s'éloigner d'ailleurs de la promesse d'origine des productions vues nulle part ailleurs.
Sauf que Xavier, si toutes les chaînes faisaient pareil, ce serait la fin de la TNT?
Alors oui, si cette initiative fait tache d'huile peut-être, mais on n'y est pas encore. Ça n'en reste pas moins un petit séisme, analyse l'historien des médias Alexis Levrier.
Depuis plusieurs années, il y avait une évolution vers une logique d'écoute différée, vers des écrans concurrents multiples au sein du foyer. Donc en fait, cette évolution, elle est déjà engagée. Simplement, on a une nouvelle étape dans cette hybridation vers laquelle on tend. Ce n'est pas la fin de la TNT, mais la confirmation que le règne de la télévision a vécu et qu'elle va devoir partager désormais son existence et sa domination avec d'autres médias.
Peut-être un mariage de raison dans une ère qui est donc désormais celle des plateformes entre les géants américains France Télé et Canal+.
Merci Xavier Demany. Mani, service culture et écran de France Inter. Et ça n'était donc pas le dernier épisode. Conclave saison 1, la série de rencontres entre syndicats et patronats lancée par François Bayrou au mois de février pour rediscuter de la réforme des retraites, devait s'achever hier, mais à minuit passé, faute d'accord, une nouvelle réunion a été proposée lundi prochain. Reste à savoir qui acceptera de revenir à la table des négociations. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Vous suivez les discussions depuis le début. Redites-nous aujourd'hui ce qui fait consensus entre syndicats et patrons. On verra ensuite ce qui bloque.
Ouais, alors il y a quand même effectivement des sujets sur lesquels les deux parties se retrouvent. L'un s'est très vite décanté, celui des femmes, plutôt des mères de famille, celles qui ont eu plusieurs enfants, des carrières hachées, ok apparemment pour un meilleur calcul de leur pension sur les 23-24 meilleures années plutôt que sur 25 actuellement. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a un sujet. Sur la pénibilité aussi, même si c'est un peu confus selon la CFDT, le patronat serait d'accord pour l'instauration d'un compte qui donnerait droit à des points aux salariés exposés au port de charges lourdes et aux postures pénibles. Il pourrait, dans certains cas, bénéficier d'un départ anticipé.
Et qu'est-ce qui coince, Maxime ?
Ça bloque notamment sur l'âge de décote, vous savez, l'âge auquel vous pouvez partir à taux plein, même si vous n'avez pas tous les trimestres qu'il faut. Cet âge est aujourd'hui fixé à 67 ans. L'espoir des syndicats, c'était de le ramener à 66, ce qui coûterait très cher pour le patronat. Et donc, la solution proposée serait de couper la poire en deux à 66 ans et demi. Solution loin d'être suffisante pour la partie syndicale, notamment la CFTC, qui préférerait plutôt entendre parler d'un effort financier du patronat, qui lui ne veut surtout pas parler de cotisations supplémentaires.
Alors, la réunion de la dernière chance aura lieu lundi, mais vu les blocages dont vous nous parlez et vu les déclarations de la matinée, on n'est pas sûr du tout de faire revenir tout le monde autour de la table.
Non, à commencer justement par le MEDEF, dont le président Patrick Martin était l'invité de France 2 ce matin.
Pour ce qui me concerne, je suis très réservé. Parce que nous n'étions pas demandeurs que cette réforme soit réexaminée.
Le MEDEF qui n'exclut donc pas de laisser sa chaise vide lundi. Idem pour la CFTC, pour les raisons invoquées. La CFE-CGC va, elle, dit-elle, aussi consulter ses instances, comme l'impression, Florence, que personne n'est vraiment pressé d'être à lundi.
Maxime Debs, merci. Bah vous, on vous retrouvera d'ici lundi. Tout cela n'est pas de bon augure pour François Bayrou. Ce conclave sur la réforme contestée des retraites était le fruit d'un compromis avec les socialistes pour éviter leur censure. On verra ce qu'ils vont faire la semaine prochaine si aucun accord n'est trouvé. Mais d'ores et déjà, la France Insoumise a prévu de déposer une motion contre le gouvernement après la réunion de lundi. Et quoi qu'il en soit, puisque même avec un accord, c'est l'abrogation de la réforme que réclament les Insoumis. Tout acte sexuel non consenti est un viol. Ce sera sans doute bientôt inscrit noir sur blanc dans le code pénal. Puisqu'après l'Assemblée, le Sénat doit cet après-midi intégrer la notion de consentement dans la définition du viol. En plus de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. La guerre entre Israël et l'Iran, pas d'accalmie. Ces dernières heures, Israël dit avoir bombardé une installation qui produit des centrifugeuses pour enrichir l'uranium à des fins militaires. Téhéran annonce avoir lancé des missiles balistiques hypersoniques sur Israël, qui assure les avoir interceptés pour la plupart. Quant au guide suprême iranien, dont Benjamin Netanyahou pense que l'assassinat réglerait les problèmes, quand Donald Trump assure que les États-Unis pourraient le tuer, mais qu'ils n'ont pas décidé de le faire pour l'instant, le guide, l'ayatollah Khamenei, vient de prendre la parole pour la première fois à la télévision d'État iranienne. La nation ne se rendra jamais sous la pression, dit-il, avant de mettre en garde contre des dommages irréparables en cas d'intervention américaine. Justement, que va faire Donald Trump ? Hier, il a appelé à la capitulation sans condition de Téhéran. Son discours est de plus en plus martial. Alors va-t-il engager les États-Unis dans cette guerre auprès d'Israël ? Bien malin ! Qui pourrait savoir, après ses dernières déclarations contradictoire, disait ce matin sur Inter Robert Mallet, l'ancien négociateur américain sur le nucléaire iranien.
Ce que fait réellement le président Trump, là il faudrait être soit psychologue, psychiatre ou astrologue, car il a changé d'optique et de position 10 fois dans la dernière semaine et encore plus depuis ces derniers mois. Donc vraiment ce qui se passe dans sa tête, c'est une autre affaire. Donc il pourra demain affirmer qu'il veut reprendre les négociations, qu'il n'a jamais voulu vraiment les arrêter.
Alors ça, c'est précisément l'option que privilégie une partie du camp du président Trump, le camp MAGA, Make America Great Again, et sa branche la plus radicale refuse toute entrée en guerre, Benjamin Ely.
Il l'avait promis à la foule de ses partisans à casquette rouge pendant toute la campagne présidentielle. Il l'a répété le jour de son investiture. Donald Trump se voyait comme un faiseur de paix, un unificateur, ce président américain qui ne serait jamais un va-t-en-guerre. Et des personnalités influentes de la sphère MAGA lui rappellent aujourd'hui cet engagement à l'image de Tucker Carlson, éditorialiste ultra-conservateur, ex-étoile de Fox News, reçu dans le podcast du sulfureux Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump pendant la campagne de 2016. Tucker Carlson qui explique clairement qu'il ne veut pas que les États-Unis soient écrasés dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Je veux dire à Donald Trump, vous êtes la seule personne à pouvoir apporter la paix. Vous devriez continuer à essayer de le faire. Réponse cinglante de Donald Trump sur son réseau social. Quelqu'un pourrait-il expliquer à ce fou de Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire, mais l'élu Marjorie Taylor Greene, pourtant une trumpiste radicale, représentante républicaine de Géorgie, vole au secours de Tucker Carlson. Dans un long message sur X, elle écrit « Nous en avons assez des guerres étrangères. Nous ne voulons pas être obligés de payer pour tout ça. L'Amérique, d'abord. » Elle le répète trois fois. C'est l'autre slogan de Donald Trump.
Benjamin Illy, correspondant de France Inter aux États-Unis, en Israël. L'espace aérien a été fermé dès le début de l'offensive contre l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Compagnies à l'arrêt. Pour autant, un premier rapatriement d'Israéliens qui se trouvaient à l'étranger a eu lieu ce matin. Et Israël promet d'aider les touristes étrangers à quitter le pays. Avec nous, Thibault Lefèvre, en direct de Jérusalem.
Bonjour Florence.
Thibault, il faut nous expliquer d'abord comment des avions peuvent voler dans le ciel israélien sous la menace constante des missiles iraniens.
Eh bien, c'est très simple, Florence. Ces avions volent à basse altitude pour éviter d'être repérés par les radars. C'était il y a deux jours, c'était au sud de Tel Aviv, alors que vous l'avez dit, l'espace aérien de l'État hébreu est officiellement fermé. Un avion de la compagnie israélienne El Al, juste au-dessus de nos têtes, ce sont ces avions qui ont été envoyés aux quatre coins du monde pour d'abord les protéger des salves de missiles iraniens et désormais pour rapatrier des Israéliens. Pas tous les Israéliens, puisque pour le moment, seuls les passagers d'El Al sont concernés. Coralie est bloquée à Paris, cette franco-israélienne devait rentrer samedi avec un vol Air France.
On n'a eu aucun effort pour répertorier les gens. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas dans un contexte sécuritaire qui est quand même assez dur en parallèle? Donc on n'a pas non plus envie de prendre des risques. Zéro information, on a l'impression d'être totalement livré à nous-mêmes.
On ne peut donc pas parler de pont aérien, mais plutôt d'une initiative, d'une compagnie aérienne pour aller chercher ses clients.
Et Thibault, pour ceux qui rentrent en Israël, pas question de repartir, puisqu'aucun Israélien n'est plus, nous dites-vous, autorisé à quitter le pays désormais?
Non, pas pour le moment. Consigne de la ministre des Transports d'extrême droite. Elle s'appelle Miri Regev. La raison qu'elle invoque, c'est pour empêcher les rassemblements à l'aéroport, des rassemblements qui pourraient constituer autant de cibles pour les Iraniens.
Il est important pour moi de vous dire que nous n'autorisons pas, pour le moment, les départs des Israéliens à l'étranger. Ceux qui partent aujourd'hui sont des touristes, ceux qui sont là pour des voyages d'affaires ou des diplomates. Ils rentrent dans leur pays et ne sont pas censés revenir en Israël prochainement.
Des Français sortent en ce moment même par la Jordanie ou l'Égypte. Gros point d'interrogation en revanche pour les franco-israéliens comme Coralie que vous avez pu entendre. Ces quatre enfants sont à Rehovot, c'est une ville particulièrement visée par les missiles iraniens. À défaut de pouvoir rentrer, elle aimerait les faire sortir.
Je peux comprendre que dans certains cas, il y a des personnes où on préfère qu'ils restent. Par exemple, toutes les personnes qui vont travailler dans le domaine médical ou qui sont potentiellement réservistes. Mais si on regarde, je veux dire, les enfants, les personnes qui ont des prêts médicaux, ça ne peut pas se justifier.
On l'a appris ce matin, une association israélienne va déposer un recours devant la Cour suprême au nom du principe de liberté de circulation.
Thibault Lefèvre, correspondant de France Inter en direct de Jérusalem. D'une guerre à l'autre, on remonte le temps comme chaque année à cette même date puisque nous sommes le 18 juin et qu'il y a 85 ans, le général de Gaulle lançait son appel de Londres contre la capitulation de la France et la collaboration avec le régime nazi. Léon Lairé, 101 ans, l'a entendu ce jour-là sur Radio Londres et il est entré en résistance.
Il n'y avait pas la télé à l'époque, il n'y avait que la radio. Mais on y allait tous les jours pour entendre ici Radio Londres, les Français parlent au français. On écoutait ça et De Gaulle, d'un seul coup, il arrive et voilà, la France a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, les alliés continuent et à la fin, on sera vainqueur. Et il avait dit à tout le monde de rejoindre Londres. Moi, à l'époque, 40, j'avais 16 ans et j'avais un copain qui avait 2 ans de plus que moi. Et bien, tous les deux ont dit, eh bien, ça y est, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à Londres?
Voilà, Léon Lairé n'ira pas à Londres finalement, mais il participera à la libération de sa ville de Tarbes. Il est au micro d'ici Béarn Bigorre.
France Inter, le 13-14. Florence Paracuelos.
Savez-vous combien de batteries au lithium nous entourent ? On en compte 19 par foyer en moyenne, soit 1 milliard dans toute la France, qui servent à faire tourner nos appareils électriques sans fil, téléphone, écouteurs, perceuses, brosses à dents. La liste est très longue. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que ces batteries peuvent être dangereuses. Dernier exemple en date, il y a 10 jours, à Reims, la batterie d'une trottinette électrique s'enflamme, un incendie déclaré dans un immeuble. Bilan, 4 morts. Voilà pourquoi les assureurs lancent une opération de prévention. Béatrice Duguay, bonjour.
Bonjour.
Pour nous rappeler que ces batteries sont à utiliser, à stocker avec précaution, parce qu'elles ne sont pas sans danger.
Et oui, le principal danger est lié aux batteries lithium. Oui, aux batteries lithium, je dis bien. Et bien, ce principal danger, c'est l'emballement thermique. Démonstration édifiante ce matin sur les quais à Paris avec Jérôme Engrand, pompier volontaire, spécialiste en sécurité incendie. Batterie de drone victime d'un choc.
Vous avez pu entendre ce premier poc, vous avez vu le dégazage qui a été assez rapide, et derrière la flamme. C'est une flamme qui est assez vive, et elle va s'arrêter quand le lithium aura totalement brûlé. On voit qu'elle est immédiatement gonflée, vous avez senti aussi cette odeur, c'est très particulier, c'est l'odeur du lithium qui brûle.
Alors nous sommes globalement sous-informés sur les dangers de ces objets qui font notre quotidien. Thomas, 19 ans, reconnaît qu'il branche par exemple son téléphone sur son lit.
Ça m'arrive très souvent, forcément. Bah, c'est une habitude qu'on prend et on ne se rend pas compte forcément du fait qu'au-delà de cet écran de verre où on slide toute la journée, bah, y a une batterie qu'on branche et avec de réels dangers.
Parce que le téléphone chauffe évidemment sur la couette. Recharger nos appareils dans des conditions inadaptées, c'est typiquement ce qu'il faut éviter, insiste Alain-Marc Chénier d'Assurance Prévention.
Par exemple, d'utiliser le chargeur qui n'est pas le chargeur d'origine ou l'équivalent du chargeur d'origine. Si on utilise n'importe quel chargeur, il y a un risque qu'on provoque une surcharge sur l'appareil lors de la recharge. Un autre conseil, on devrait toujours surveiller un appareil en recharge. On est tous pareils, on recharge nos appareils la nuit, quand on ne s'en sert pas, il faudrait au moins qu'on les mette dans un endroit où il n'y a aucun danger.
Ne pas charger ses batteries d'outils, par exemple, près de produits dangereux dans l'atelier. Ne pas charger la trottinette électrique devant la porte d'entrée.
Parce que l'entrée de l'appartement, c'est aussi la sortie. Donc la trottinette, je vais essayer de la mettre sur le balcon, dans un garage, à minima dans une pièce fermée. Nous, on recommande par exemple la salle de bain. C'est une petite pièce, il y a peu de combustible, je peux fermer la porte.
Voilà, sachant qu'une trottinette et sa batterie basse, ça heurte des trottoirs, choc qui peut provoquer surchauffe ensuite et incendie, la boucle est bouclée.
On est complètement dans le faux, Béatrice. Il va falloir qu'on adapte ces histoires de recharge, parce que j'ai l'impression qu'on fait tous ce qu'il ne faut pas faire. Il va faire chaud, de plus en plus chaud dans les prochains jours, on verra ça tout à l'heure. Avec Sébastien Léas, à partir du 1er juillet, sachez-le, un décret va paraître pour obliger les patrons à adapter le travail des salariés en cas de forte chaleur, leurs horaires notamment. En attendant, la ministre chargée du travail et de l'emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, les appelle au bon sens, ses employeurs, pour protéger les travailleurs du bâtiment. Météo France prévoit jusqu'à 37 degrés ce dimanche à Lyon ou à Auxerre. Eux ne sont pas salariés, mais c'est pour eux qu'on paye quand on va au zoo. Les animaux sauvages aussi souffrent de la chaleur aux terres de Natae, zoo de Pont-Scorff, dans le Morbihan. Les soigneurs leur distribuent des glaces au goût particulier en ce moment, Angeline de Meunck.
J'embarque dans la voiturette de Valie Gourdon, la responsable communication du parc.
Là, on rejoint les Licaons. On va leur donner des glaçons à base de jus de sang. Ça va permettre, vu les fortes chaleurs là, de bien les rafraîchir.
Ils aiment les glaces autant que les humains.
Autant que nous.
Alors pas question d'entrer dans l'enclos des trois chiens sauvages.
Non, on rentre jamais avec eux. Ils ont quand même le comportement sauvage. Surtout là, on est sur une meute.
Il va donc falloir viser.
Les bébés !
Alexandra Toulek est la soigneuse des carnivores.
C'est parti pour le lancer.
Bah là, du coup, on a le frère et la sœur qui se sont jetés sur le petit glaçon. Maman qui regarde un peu ça à côté, elle laisse ses jeunes en priorité.
De quoi faire quelques jaloux chez les spécimens à deux pattes de l'autre côté de la vitre.
Une glace ! Ah, j'ai de la chance ! Et à mon avis, elle va faire la preuve vu qu'elle est au moins rouge.
Il y a effectivement plusieurs parfums pour les herbivores, surtout glace au bambou, aux feuilles, aux fruits, petite douche aussi pour les perroquets. L'idée, c'est que tout le monde reste au frais.
On regarde particulièrement les espèces qui n'ont pas forcément l'habitude des chaleurs bretonnes, telles que les pandarous par exemple, qui sont plus dans les régions de l'Himalaya. On surveille bien qu'ils allaitent pas trop, donc on passe régulièrement dans la journée pour surveiller tout ça.
Des températures qui ont également un impact sur les visiteurs. Il y a moins de fréquentation les jours de canicule.
Angeline de Meunck, ici Brézizel. Avec ce beau temps, les enfants sont dehors, surtout si vous avez un trampoline dans votre jardin. C'est presque devenu incontournable ces dernières années. Or, les trampolines sont la cause de bien des accidents pour les enfants, contusions, entorses, fractures. Ça fait longtemps que les médecins, traumatologues déconseillent d'utiliser ce type d'équipement. Nina Sobetsky, vous êtes allée demander aux parents s'ils en sont bien conscients à l'aire de jeu du jardin des Tuileries à Paris.
Quelques minutes de trampoline en rentrant de l'école, c'est devenu presque un rituel pour le fils de Quentin, 4 ans.
Quand il a été sage, on vient ici en faire 5 minutes et puis on rentre chez nous juste après.
Mais 5 minutes bien surveillées, car son papa a conscience des risques.
Hey Rafa, reste cool. Il y a des petits matelas pour protéger, donc c'est pas les grands trampolines de jardin desquels on peut tomber ou qui n'auraient pas de filet. Donc à 4 ans, comme ils peuvent pas sauter très haut, la chute est un peu limitée.
Mais ces protections rassurantes pour les parents sont illusoires, selon Nicolas Winter, médecin aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Valence. Ancienne.
Il suffit que vous retombiez mal, en fait, que votre appui n'est pas bon. Vous allez avoir une tension sur les ligaments qui vont provoquer de l'entorse bénigne à l'entorse grave, des fractures. Et puis quand vous avez plusieurs enfants à l'intérieur du trampoline, si l'un retombe sur l'autre, c'est catastrophique, oui.
Comme beaucoup de pédiatres, le médecin soutient que les trampolines sont réservées à une pratique sportive et encadrée, et non au grand public.
Personne n'aurait l'idée de mettre un enfant sur un vélo sans lui apprendre à rouler à vélo, voire sans même ne lui mettre de protection. Alors pourquoi on le fait avec le trampoline ?
Pour prévenir les risques, il est recommandé de ne laisser qu'un seul enfant à la fois sur le trampoline, de ne pas faire d'acrobatie ou encore de limiter le temps de jeu.
Nina Sobetsky, le site chinois AliExpress, sous la menace d'une lourde amende de la Commission européenne, accusée de ne pas gérer suffisamment les risques liés à la vente de produits illégaux comme les contrefaçons ou des articles non conformes aux normes européennes. Pour débaucher les meilleurs éléments chez son concurrent, qu'est-ce qu'on fait ? Un gros chèque, une bonne prime. Mais là, vraiment, vraiment, on parle de montants colossaux que Meta aurait offert en vain à de nombreux employés d'OpenAI, société mère de ChatGPT, pour renforcer son pôle intelligence artificielle. C'est Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui le raconte dans un podcast animé par son frère.
They started making these, like,
Meta a commencé à faire des offres gigantesques à de nombreux membres de notre équipe, des primes à la signature de 100 millions de dollars, plus que cela en rémunération annuelle. C'est fou. Je suis vraiment content que jusqu'à présent, aucun de nos meilleurs éléments n'ait décidé d'accepter. Je pense que cette stratégie d'offrir un pont d'or et d'en faire la raison de rejoindre le groupe plutôt que le travail en lui-même ne vont pas créer une super culture d'entreprise. En tout cas, ça a permis de clarifier les choses chez nous. Alors bonne chance à Meta.
Meta et ses propositions financières hollywoodiennes, voilà qui nous amène au cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Les sorties ciné de la semaine, c'est avec vous, Alexis Demeyer, bonjour.
Bonjour Florence.
Vous nous conseillez d'abord le film d'animation Elio.
Je suis prêt. Venez me chercher.
Tu serais pas Elio ?
Ouais, j'essaie de me faire enlever. Par des aliens.
Un petit garçon qui ne se sent pas vraiment à sa place sur Terre et qui tente de communiquer avec des extraterrestres pour qu'ils viennent le chercher. C'est la belle et émouvante idée de cette nouvelle production Pixar, ce studio responsable de plusieurs chefs-d'œuvre, mais qui déçoit régulièrement ces dernières années. Eh bien, Elio pourrait bien nous réconcilier avec Pixar, tant cette aventure intergalactique est rythmée et divertissante, tout en s'autorisant plusieurs niveaux de lecture, comme aux grandes heures de Toy Story et autres vice-versa. Attention tout de même, certains aliens font vraiment très peur, donc à déconseiller au moins de 8 ans à mon avis.
D'accord. Vous êtes moins convaincu par le drame social Enzo.
Oui, et pourtant j'avais envie d'aimer à la folie ce film posthume de Laurent Canté, terminé par son camarade Robin Campillo, mais son propos me semble un peu simpliste et parfois confus.
T'as le droit d'avoir des ambitions un peu plus grandes, voilà.
Mais tu vois, j'ai des ambitions toutes petites, moi.
Ok, donc tout se ramasse en toute ta vie.
Et alors ? C'est déshonorant ?
Enzo a 16 ans, il habite une luxueuse maison avec vue sur la Méditerranée. Son frère va entrer à Henri IV, mais lui, il travaille sur des chantiers dans le cadre d'une formation en maçonnerie. On l'aura compris, c'est le choc des cultures qui est au cœur du projet. Et on a déjà l'impression d'avoir vu ça 100 fois, d'autant que la subtilité des situations n'est ici pas toujours bien dosée. Reste une mise en scène très inspirée et une interprétation impeccable du rôle-titre par le jeune Éloi Pohu.
Bon, on peut toujours aller se faire une idée. Qu'est-ce qu'il faut penser, Alexis, de The Return avec Juliette Binoche?
C'est le retour du titre, c'est celui d'Ulysse, incarné par Ralph Fiennes, qui retrouve, 30 ans après, sa partenaire du patient anglais Juliette Binoche, ici dans le rôle de la mythique Pénélope.
Marry one of them, anyone.
and the rest will go.
I am Odysseus's wife.
My father is dead.
Surprenante et même parfois déconcertante, cette nouvelle adaptation cinématographique de l'Odyssée est une belle surprise avec ses affrontements et ses sentiments forcément homériques.
On termine, Alexis. Non, pas tout à fait d'ailleurs.
On a encore un peu de
vous
temps.
Avez envie de nous parler de cette version restaurée du film de Niki de Saint-Phalle.
Quel plaisir que de découvrir sur grand écran un rêve plus long que la nuit que la plasticienne avait réalisé en 76.
Et un vœu, et je te le réaliserai.
J'aimerais devenir une grande personne.
À l'image des œuvres de Niki de Saint-Phalle, ce film fantastique nous entraîne dans un univers coloré et volontiers outrancier, avec des scènes en prise de vue réelle, mais aussi des séquences animées totalement réjouissantes.
Et alors, cette fois, on en termine. Alexis, un petit tour d'horizon des autres sorties de ce mercredi.
Nous avons donc Avignon, une comédie romantique avec Baptiste Le Caplain et Alison Wheeler. Maya, donne-moi un autre titre, deuxième volet des aventures animées et bricolées de Michel Gondry et de sa fille. Et 28 ans plus tard, un film d'horreur avec plein de zombies réalisé par Danny Boyle.
Merci beaucoup Alexis Demeyer, vous êtes notre officiel des spectacles tous les mercredis 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Je crois savoir qu'il va faire chaud. L'invité du 13-14, on va parler arnaques bancaires. Elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus sophistiquées. On pense à ces faux conseillers qui nous appellent pour siphonner nos comptes. On pense au SMS des faux livreurs qu'on reçoit tous si vous avez été victime ou bien si vous êtes devenu parano à force de douter de tout le temps. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Les témoignages sont les bienvenus, les questions aussi. La directrice de la Fédération Française des Banques est là pour y répondre et nous donner des conseils. Une semaine dans leur vie, le feuilleton de 13h45. On est chez une tatoueuse thérapeutique dont l'héros, comment se réapproprier son corps après la maladie. C'est la France, c'est une chanson. Frédéric Pommier, Eric Fotorino, bonjour.
Bonjour Florence. Bonjour.
Eric, la France est-elle le nouvel Eldorado des trafiquants ?
Alors, la question se pose, Florence, avec l'exposition toujours plus grande de notre pays aux drogues illicites. Mais les réseaux et les bandes de trafiquants prospèrent d'abord sur fond d'angoisse et de tension de consommateurs dont les addictions font de la drogue un miroir de nos peines.
À tout à l'heure, Frédéric, avec vous, un metteur en scène.
Il est également auteur, plasticien, réalisateur, Mohamed El Ratib. On peut voir actuellement une rétrospective de son œuvre au Grand Palais à Paris. Et avec lui, nous écouterons celle que l'on surnommait l'Astre de l'Orient, ou encore la quatrième pyramide, ou bien encore l'immortel, j'ai nommé Oum Kalthoum.
Frédéric, Eric, je vous remercie, c'est parfait. À tout à l'heure.
Travailler avec une personne de plus de 50 ans, quelle idée !
Bah moi, ça a été la réponse à tous mes problèmes. Ça fait 11 ans qu'Isabelle travaille dans mon entreprise et c'est l'employée la plus fiable. Elle se forme en continu et c'est elle qui s'y connaît le mieux en IA.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement, rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Vous n'étiez pas passé à l'électrique. Vous n'aviez pas encore essayé la voiture mondiale de l'année. Nouveau Kia EV3. Jusqu'à 605 km d'autonomie. À partir de 357 euros par mois, jusqu'au 30 juin, sans apport.
Kia EV3 autonomie standard hors option. LLD 49 mois, 40 000 km. 49 loyers de 357 euros TTC hors assurance facultative. Offre particulière si accord Kia Finance. Cycle WLTP sur version 81,4 kWh. Conditions sur kia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
France Inter, partenaire des Eurockéennes de Belfort. Du 3 au 6 juillet, sur la merveilleuse presqu'île de Malsaucille. Pour cette 35e édition, 50 concerts pendant 4 jours avec Iron Maiden, Justice, DJ Snake, Damso, Clara Luciani, La Femme, Bicep et bien d'autres. Rendez-vous pour le meilleur week-end prolongé de l'année. Les Eurockéennes du 3 au 6 juillet. Un festival France Inter.
13h29 sur Inter, l'heure du temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Sébastien Léa, c'est pas très compliqué aujourd'hui, soleil et chaleur.
Effectivement, pas grand-chose à signaler dans le ciel à part un soleil radieux sur la quasi-totalité du pays. On notera juste deux petits développements nuageux sur les hauteurs des Alpes du Sud, pouvant aller localement jusqu'à l'averse, le risque restant limité. Et donc, on va beaucoup parler de chaleur dans les prochains jours. Dès cet après-midi, les températures s'envoleront, 28 degrés à Lille, 29 degrés à Paris, Aurillac et à Nancy, 31 degrés pour Strasbourg et Dijon, 32 degrés à Marseille, Toulouse et Perpignan, jusqu'à 34 degrés à Avignon et à Angoulême. Alors un peu de fraîcheur résistera quand même sur les plages de la Manche, avec 22 degrés de Bré-Dunes à Perros-Guirec en passant par Étretat. Et puis minimales comme maximales vont encore monter d'un cran jusqu'en fin de semaine. D'ailleurs, on se dirige vers un épisode de vague de chaleur à l'échelle du pays, avec des températures caniculaires sur de nombreux départements de l'Ouest à partir de vendredi. Le pic probable de cette vague de chaleur au niveau national est attendu pour samedi, avec régulièrement 35 degrés sur la plupart des régions et des pointes à plus de 38 degrés de l'Est-Bretagne à la Touraine jusqu'au bord de la Garonne.
C'est tout à fait complet. Merci Sébastien Léas.
France Inter, le 13-14, Florence Paracuelos.
Avec nous, Maya Attic. Bonjour madame, merci d'être là dans le 13-14.
Bonjour Florence Paracuelos.
Vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française, aux premières loges des arnaques qui visent notre argent sur nos comptes dans vos banques. Le fléau du moment, c'est l'arnaque au faux conseiller bancaire, celui qui vous appelle en usurpant le numéro de votre agence, l'identité de votre conseiller, qui vous fait peur. Le plus souvent, vous en croire à des virements suspects qui finit par vous avoir, vous lui donnez vos codes, vous lui faites un virement et c'est foutu. 1 million de victimes en France, nous disait il y a 3 semaines Thibaut Martinez Delquerou, qui a fait une longue enquête, on l'a reçu pour son livre Les Caméléons. 1 milliard de préjudices financiers, c'est énorme. Alors, qu'est-ce que vous faites, Maya Attig, vous qui représentez les banques, pour protéger vos clients? Vous les appelez d'abord, évidemment, à la prudence. Il y a une nouvelle campagne de com', c'est ça?
Alors, la vigilance, elle est maximale et la sécurité, c'est bien évidemment une priorité des banques. L'argent dont on parle, c'est notre argent à tous. Tout le monde est intéressé pour améliorer la situation, la vigilance, la connaissance. Donc, on mène effectivement une enquête tous les ans pour mesurer les pratiques et pour voir là où ça peut s'améliorer. Le premier élément, ça fait l'objet de notre campagne qui va être lancée ce week-end, ne donnez jamais vos données bancaire, votre conseiller ne vous les demandera jamais. Raccrochez, ne répondez pas, rappelez votre vraie banque, votre vrai numéro de banque. On met en place énormément de mesures techniques d'authentification et on sait bien que les arnaqueurs vont utiliser des failles humaines, la faille de l'attention, la faille de l'urgence, l'envie de faire vite, ça, ils vont l'utiliser.
Ça fait peur, hein, en fait, un conseiller qui nous appelle en disant qu'on a un virement qui est en cours vers la Côte d'Ivoire, par exemple.
En fait, les arnaqueurs...
D'autant qu'on ne les connaît plus, en fait, nos conseillers bancaires, il y a un turnover terrible, il y a de moins en moins d'agences, on ne sait plus qui sont nos conseillers.
Les conseillers sont quand même connus par la plupart de leurs clients, ils ont leur nom figure sur les relevés bancaires, sur les communications, sur l'appli. Il y a toutes sortes de moyens de les joindre par l'application sécurisée de la banque. Donc ça, il faut également l'utiliser. Il y a 35 000 agences bancaires en France, donc il y en a de nombreuses. Et effectivement, j'ai eu des témoignages récents de personnes qui sont passées à leur banque alors que le banquier affirmait être en ligne avec elles. Donc ça leur a permis de contrecarrer immédiatement le sujet. Donc ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Ce qui est très important, c'est vraiment d'intégrer les règles de sécurité de base. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des règles de gestion des mots de passe, d'absence d'enregistrement de vos numéros de carte, etc., qui ne sont pas encore complètement installées. Donc, dans notre dernière enquête publiée ce matin, on voit que ça s'améliore, mais ce n'est pas encore parfait.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas enregistrer ces mots de passe sur nos navigateurs, par exemple.
Il vaut mieux éviter, oui, d'utiliser les mots de passe, d'enregistrer, bien entendu, les numéros de carte bancaire sur une multiplicité de sites. Ça, il faut vraiment éviter.
Vente, ouais.
Donc, il faut vraiment, disons, avoir beaucoup de mesures de prévention. Et puis, les arnaqueurs savent qu'ils vont prendre les gens, leurs victimes, par les sentiments, par la peur, par le sentiment de l'urgence. Mm-hmm. Et ça, c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, les plus jeunes sont très vulnérables.
Ah ouais, curieusement.
Absolument.
Plus que les plus âgés.
Dans notre enquête, on a fait un focus sur les plus de 60 ans. Ils se savent viser, ils se sentent visés. En pratique, dans les chiffres, ils ne se déclarent pas plus souvent victimes que les autres. Mm-hmm. Donc, c'est même moins le cas. Hein, donc, c'est quand même intéressant.
Mais ils sont plus parano.
Ils sont plus inquiets. Et encore une fois, on parle de 80% des personnes qui ont les bons réflexes. Donc, ça fait toujours 20% qui vont être vulnérables. Et puis, c'est le genre de choses, ça peut arriver à chacun. Mm-hmm. Donc, c'est extrêmement important d'être très vigilant et de tous se mobiliser ensemble.
Nous, clients, vous nous appelez à la prudence, à la vigilance, voire à la paranoïa. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, les banques, pour lutter contre ces escrocs, notamment ceux qui se font passer pour des conseillers bancaires? Écoutez un instant ce que nous disait Thibaut Martinez del Queyrou, qui a donc signé une enquête très, très fouillée et qu'on recevait il y a 3 semaines.
La deuxième grosse découverte que j'ai faite dans ce livre, c'est que les escrocs les plus forts, ceux avec la plus grosse crédibilité, ont en fait des contacts au sein des banques. Des personnes qui sont infiltrées au sein des banques et qui, contre une rémunération, vont donner les informations les plus précises sur des victimes. On va avoir évidemment nom, prénom, adresse, date de naissance, prénom des parents, évidemment nom, prénom du conseiller. On va avoir le montant, les encours, les derniers achats pour être le plus crédible au téléphone, avoir la meilleure couverture et donc soutirer un maximum d'argent.
Maya Attig, il y a des informateurs dans vos banques?
Alors, d'abord, le sujet de la fraude interne, il touche tous les secteurs. Hein. Mmh. Ça, c'est un élément qu'il faut bien resituer. Le livre comporte des conseils intéressants. Je ne suis pas du tout à l'aise avec les chiffres qu'il donne, qui n'ont aucune source. Hein. C'est des cumuls de chiffres. Nous, on a fait
le
calcul.
Alors, lui, il parle de sources judiciaires, policières.
Hein. Alors, oui, mais... Mmh. qu'on n'a pas eu, ni de la police, ni de la justice, d'accord, avec qui la coopération est excellente. Mais d'accord, je ne veux pas entrer dans une bataille de chiffres. L'essentiel, c'est que la vigilance soit là. On a
mais vous,
aujourd'hui...
Qu'est-ce que, dans,
il y a
au sein
des services
bancaires.
Les banques sont parmi les entités qui ont les services de fraude interne, de lutte, hein, de anti-fraude interne, les plus sophistiqués. Par exemple, un conseiller, quand il se connecte, sa banque sait qu'il s'est connecté à la base de ses clients. Donc, un conseiller qui regarde des comptes qu'il ne devrait pas regarder, qui regarde trop souvent, trop longtemps, etc., il est topé. Donc, on a quelques centaines de cas identifiés chaque année, moins de 500 hein, cas, donc ça peut être moins de salariés aussi que ça, hein, ça peut être 300, 400, qui sont licenciés. Le phénomène nouveau aujourd'hui, c'est que, effectivement, mais le livre n'est pas le seul à en parler, puisqu'on l'a vu aussi dans d'autres dossiers, comme l'affaire Adecco, qui touche un autre secteur. Mm-hmm. On sait que ça existe dans le domaine des télécoms,
temporaire.
On sait que ça existe dans énormément de domaines. Des personnes qui travaillent soit en réseau organisé, donc qui se font recruter d'entreprise en entreprise, en sachant qu'elles vont devoir voler des données. Mm-hmm. Il y a eu un excellent reportage du Monde, du journal Le Monde, sur un réseau qui collecte ces données et qui les utilise, et donc vraiment tout secteur confondu, hein, et qui les commercialise. Ça, c'est le premier élément, les personnes qui se font recruter, et puis aussi des personnes qui vivent sous la menace de leurs proches, qui les rackettent en fait avec ces données-là.
Okay.
Donc, tout ça est extrêmement surveillé par la fraude interne. Hein. Donc, il y a relativement peu de cas. Dans les banques, vous avez quasiment 400 000 salariés, en comptant les alternants, les stagiaires, etc. Donc, ça fait énormément de monde. 400 cas sur 400 000, c'est peu.
Mm-hmm.
Et
c'est
tous ces sujets-là, c'est suffisant, mais c'est
ça.
Le cas dans toutes les entreprises. Et je crois que c'est très important que ce phénomène bien mis à jour, bien mis au jour, soit bien identifié, parce qu'effectivement, ça veut dire que quelqu'un peut avoir vos informations parce qu'il a croisé la base d'un opérateur téléphonique, la base d'une fédération sportive dont les données ont été hackées, la base d'un assureur, d'une banque, etc. La donnée, c'est clé.
On va prendre un auditeur tout de suite, il s'appelle Dominique. Bonjour Dominique, vous venez de Rouen, je crois que vous avez été arnaqué 2 fois, c'est ça ?
Oui, en fait, c'était une seule fois, mais portant sur 2 comptes bancaires à la suite d'une transaction sur un site SNCF frauduleux pour une carte senior à tarif absolument préférentiel. Et j'ai été rappelé le lendemain par un faux conseiller bancaire se présentant comme responsable de la sécurité des cartes Visa, etc., et me disant « on a eu une transaction bizarre sur votre compte, on veut vérifier avec vous ». Et à partir de là, ça a été il m'a fait faire des manips invraisemblables sur 2 comptes, parce qu'il m'a dit le deuxième compte a peut-être été piraté aussi, donc on va vérifier.
Dans la même banque, Dominique ?
Non,
dans 2 banques différentes.
deux banques différentes, dont une en ligne et une banque traditionnelle, une banque de rue traditionnelle, quoi, voilà. Et alors ma grosse surprise, ça a été en fait, bon, moi j'ai porté plainte à la gendarmerie, j'ai rempli des formulaires de demande d'indemnisation auprès des deux banques, et il y a une banque qui m'a remboursé dans les trois jours, et l'autre banque qui a refusé, et malgré une relance à la demande de ma directrice d'agence qui était intervenue, j'ai demandé le réexamen de mon dossier, ça a été à nouveau refusé.
Laquelle, Dominique ? Qui vous a refusé, la banque en ligne ou la banque traditionnelle ?
La banque traditionnelle m'a refusé.
D'accord. Merci beaucoup, Dominique, merci. Alors justement, Maya Attic, ça c'est une des questions qui fâche peut-être, c'est comment récupérer son argent quand on a été escroqué. Je signale qu'une décision toute récente de la Cour de cassation vous oblige, vous, désormais, les banques, de prouver que vous avez bien respecté vos obligations de vigilance vis-à-vis de vos clients sans pouvoir les accuser directement de négligence. Ça veut dire que vous allez devoir rembourser davantage les victimes d'escroquerie.
Alors, quand vous dites « vous », c'est nous tous.
Vous, les banques, hein,
bien sûr. Vous, les banques, c'est nous, les banques. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très important sur chacun des faits, et c'est pour ça qu'il faut regarder au cas par cas, je crois que c'est d'ailleurs ce qu'a dit l'écrivain, le journaliste, il faut regarder au cas par cas. Donc, il y a des situations où, par exemple, vous avez fait un deuxième code d'authentification, et donc là, il faut pousser plus loin pour savoir à quel degré, finalement, vous avez poussé vous-même, finalement, l'arnaque à son terme, ou bien si l'opération s'est faite sous authentification. Donc, les opérations peuvent aussi se faire dans des conditions différentes.
J'entends Dominique qui nous parle de la même escroquerie sur deux comptes, deux banques, une rembourse, l'autre non.
C'est pas sûr que ce soit que les deux authentifications aient été faites de la même manière. Donc, les degrés de contrôle.
En fait, Maya Matic, c'est qu'on est foutu si on fait tout bien.
Non, non, pas du tout. C'est au cas par cas. Premièrement,
si les escrocs sont trop forts, de toute façon, on est foutu, on ne reverra jamais son argent.
C'est au cas par cas, premièrement. Deuxièmement, récupérer son argent, c'est d'abord porter plainte. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les services d'enquête vont loin, les services d'enquête identifient, et donc le remboursement, je précise, c'est avec l'argent de tout le monde. Hein. Et donc aujourd'hui, il faut éviter un schéma où, avec des remboursements automatiques, en réalité, on créerait un système d'appel d'air envers des personnes qui affirmeraient qu'elles-mêmes ont été arnaquées alors qu'elles sont complices de l'arnaqueur. Donc c'est pour ça que c'est bien regardé à chaque fois au cas par cas, l'aspect, je dirais, technique, l'aspect escroquerie, on regarde bien la différence pour éviter des cas abusifs. Ensuite, il y a des recours, hein, je le dis également pour Dominique, le médiateur peut également intervenir.
Maya Attig, est-ce que vous avez chiffré combien ça allait vous coûter tout ça ? On parle, l'auteur du livre dont on parlait parle d'un milliard d'euros de préjudice global. Vous nous dites que c'est des chiffres invérifiables peut-être, mais est-ce que les banques provisionnent de l'argent pour indemniser leurs clients floués ?
Alors, je précise une fois de plus que l'argent des banques, c'est l'argent de tout le monde, hein. C'est l'argent de tout le monde. Autrement dit, si des clients demandent à se faire rembourser, y compris de façon, je dirais, en étant eux-mêmes victimes d'un réseau, c'est quand même tous les clients qui payent. Hein. Ça, c'est extrêmement important de s'en souvenir. Il n'y a pas la caisse de la banque et puis la caisse des clients. C'est la même caisse, premièrement. Deuxièmement, effectivement, ces sommes, le milliard, ça correspond à peu près à la somme totale annuelle des arnaques au paiement. Hein. Donc, c'est pas
vous
du
provisionnez
tout
ou pas,
uniquement
Maya.
Ces cas-là. Comme tout autre risque, hein, il y a un certain nombre de risques qui sont provisionnés.
Vous
ne
pouvez pas nous donner le montant des provisions
Il n'y a pas de provision spécifique sur ce domaine-là. Mais effectivement, il y a un montant élevé de remboursement qui est fait chaque année de manière logique, puisque à la fois les textes et les engagements envers les clients y appellent.
On retourne au standard avec Yann. Bonjour Yann.
Bonjour.
Bonjour. Vous nous appelez de Nantes. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Yann ?
Alors écoutez, j'étais ce week-end avec mes enfants à Barcelone. Je suis rentré lundi matin. Et lundi après-midi, un faux conseiller bancaire de ma banque, du Crédit Agricole, spécialiste de la fraude, m'a appelé et m'a indiqué qu'il y avait des mouvements suspects sur ma carte bleue. Donc il y avait trois mouvements Winamax de 460 €. Donc il me demandait si effectivement j'entrais de l'étranger. Donc j'ai failli me faire avoir jusqu'à ce qu'il m'ait demandé d'accepter dans mon application bancaire le mouvement. Donc j'ai raccroché. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est comment il a pu savoir que j'étais à l'étranger. C'est-à-dire que l'information était quand même assez récente. Donc il connaissait ma date de naissance, bien évidemment, ma banque, mais également que je revenais de l'étranger.
Donc ça, c'est des informations très fraîches, Maya Attil.
Alors, ça... c'est un cas qui illustre, comme le précédent d'ailleurs, le fait qu'il peut y avoir beaucoup de bases de données connectées.
Oui, mais enfin, là, il faut accéder aux données de façon très, très rapide. Là, c'est vrai qu'on pense à une complicité bancaire dans
pas
ce genre
seulement
de cas.
Bancaire, forcément. Ouais. Ça peut être une complicité dans la compagnie aérienne ou la compagnie ferroviaire qui a été prise. Hein. Ça peut être ce cas-là. Ça peut être aussi les probabilités. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement, on est en France, les gens aiment les week-ends, les longs week-ends. Barcelone, c'est une ville remplie de Français tout le temps.
Oui, vous appelez vos clients, ça peut marcher. C'est comme vous avez un colis, j'ai un colis à livrer, je n'arrive pas à le mettre dans votre boîte aux lettres, les SMS,
et puis
des faux livreurs.
Vous revenez, vous avez la tête ailleurs. Okay. Finalement, on va se dire, bon, il ne va pas faire très attention, c'est crédible.
D'accord.
Ça, c'est très important. Et donc ça, ce jeu sur les probabilités, sur nos vies, qui sont malgré tout très standardisées, ça joue énormément. Donc ça montre bien que toutes les bases de données... mais aussi cet esprit de probabilité peut jouer.
Merci Maya Attil, on n'a pas eu le temps de parler du phishing, de tous ces faux SMS qui nous relancent, sur lesquels il faut donc du coup jamais cliquer, pas
vigilant.
De lien. On rappelle, vigilance,
absolument.
Paranoïa. Maya Attil, vous êtes directrice générale de la Fédération Française Bancaire. Merci,
merci pour
d'être
invitation.
Venue nous voir à France Inter. Mais c'est l'heure du feuilleton. Une semaine dans leur vie, une semaine chez une tatoueuse thérapeutique installée dans l'Hérault. Troisième épisode chez Caroline Escafitte. Son encre sur les corps malmenés par la maladie, les opérations, les accidents. Charlotte est venue la voir. Elle a eu un cancer du sein. 2 ans de traitement et de combat qu'elle a voulu conclure par un tatouage pour habiller sa poitrine meurtrie et se réapproprier son corps.
Il est beau. Ah ouais. Nickel. Il n'a pas bougé, hein.
Non,
et puis pas du tout en relief. Nickel, pas de retouche.
Il n'y a pas de trou nulle part, il n'y a pas de retouche à prévoir. Je suis trop contente.
Bah, je suis trop contente. Attends, ça va trop bien avec le...
Il est parfaitement bien placé.
Ouais, voilà. C'était ce qui manquait.
Mon prénom, c'est Charlotte. Moi, j'ai rencontré Caroline au mois de janvier cette année. J'ai eu un diagnostic de cancer du sein en 2022. Donc voilà, avec un parcours de soins sur à peu près 2 ans. J'ai eu du coup une mastectomie bilatérale et intégrale avec une reconstruction. Il y a une différence entre la chirurgie de réparation et puis la chirurgie esthétique. Donc en termes de résultats, c'est pas non plus top. C'est pas ce à quoi on s'attend. Le rendu esthétique, moi, me convenait pas particulièrement parce que voilà, j'ai eu des rayons sur mes opérations, etc. Donc ça vient effectivement modifier complètement la structure de la poitrine. Et du coup, mon chirurgien me proposait une nouvelle opération.
Qui aurait été la combientième d'opération dans votre parcours ?
Une, deux, trois, quatre, quatrième. Quatrième.
Si on pose,
non, terminé, c'est fini. J'avais plus envie qu'on me touche, plus envie. J'avais juste envie qu'on me foute la paix. Bon, bah effectivement, moi, ça se voit pas, mais je suis déjà pas mal tatouée, donc j'ai un rapport au tatouage qui est ce qu'il est. Je m'étais dit qu'en fait, j'en passerais par le tatouage pour en fait corriger ce défaut esthétique et puis cette réappropriation de cette poitrine, de ces intrus qui ont été intégrés en moi. Parce que les prothèses, c'est particulier aussi, il faut les intégrer dans son corps, quoi. Donc effectivement, je dis, je vais en passer par le tatouage pour pouvoir réparer tout ça.
Quand vous trouvez Caroline via le réseau Sœurs d'encre, comment se passe le premier échange ?
Alors, moi, je parle beaucoup.
Oh.
donc, déjà, je lui ai fait un mail où je lui ai raconté plein de trucs.
Oui, j'ai adoré ce mail. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est bon, je pense que je suis la bonne personne.
Voilà, bah, je voulais être claire, en fait. Moi, j'avais une démarche qui était très précise et je savais précisément ce que je voulais. Donc, effectivement, je lui ai fait un mail avec les grandes lignes de, voilà, mon parcours, c'est ça. Aujourd'hui, j'attends ça et j'ai besoin de ça. Elle m'a dit, bah, banco, on y va, quoi.
Donc, c'est plus habiller
la poitrine.
La poitrine,
pas les cicatrices finalement. Les cicatrices, elles sont bien là où elles sont. Et l'idée, c'était effectivement de réhabiller la poitrine. Quoi. Et de pouvoir faire une sorte de trompe-l'œil pour pouvoir camoufler le défaut esthétique qui est arrivé après la reconstruction. Quoi.
Réhabiller la poitrine pour se réapproprier sa féminité ou c'est un truc bateau ce que je suis en train de dire.
Ah non, c'est complètement ça en fait, c'est complètement ça. Oui, bien sûr, parce que c'est une atteinte à son corps, la maladie, les traitements, les opérations, et puis bah voilà. Alors après, il y a des femmes qui sont très à l'aise avec ça et quelle force elles ont. Je suis très admirative de ces personnes-là. Voilà, moi, dans mon appropriation de mon corps et de ma féminité, j'en étais pas là et j'avais besoin d'une étape de plus pour venir boucler tout ça aussi. C'était le point final de toute cette maladie. Ça venait aussi, c'était la dernière chose à boucler pour mettre tout ça derrière et que maintenant on n'aille que de l'avant, quoi.
Là, c'est la conclusion. Pour vous, quand vous sortez du studio de Caroline, une fois tatouée, vous vous dites « ça y est, c'est fini, c'est derrière moi ?»
Ah, complètement, ouais. Ouais, complètement, même s'il y a encore des contrôles, etc. Parce que voilà, je suis encore dans une période de soins, finalement, j'ai encore un traitement, etc. Mais en tous les cas, par rapport à l'atteinte que j'ai subie dans mon corps, voilà, c'était le point final, quoi, effectivement. Ouais.
Dans le studio de Caroline, tatoueuse thérapeutique, un feuilleton signé Vanessa Descoureau. Réalisation Stéphane Ronxin.
France Inter, le 13-14.
C'est la France. Bonjour Éric Fotorino du 1 Hebdo.
Bonjour Florence.
Éric, question, la France est-elle devenue la terre d'élection des narcotrafiquants?
Alors il y a plusieurs façons de regarder cette question. Si on s'en tient au coût social des drogues illicites dans notre pays, il reste 20 fois inférieur à celui du tabac, 13 fois à celui de l'alcool. Mais cette importance relative ne doit pas faire oublier deux phénomènes. D'abord, jamais l'offre et la demande de ces produits n'a été aussi élevée et la France est une des principales touchées dans ce déploiement de la mondialisation. Autre fait notable, le trafic de drogue est le lieu de violence de plus en plus marquée, comme l'écrit Patrice Trappier dans l'éditorial du 1 Hebdo, qui propose un voyage dans la France des narcos. Les tragédies liées au trafic de stupéfiants se sont depuis 2 ans succédées à un rythme d'enfer. On se souvient de cette étudiante en droit tuée par une balle perdue de Kalachnikov à Marseille en 2023, de ce chauffeur de VTC froidement abattu d'une balle dans la tête par un jeune de 14 ans en ce début d'année, ou encore de ces 2 agents pénitentiaires exécutés dans l'heure en février dernier lors de l'évasion du narcotrafiquant multirécidiviste Mohamed Amra, finalement interpellé en Roumanie, ou encore dès 2020 de l'assassinat de ce docker au Havre, un port où furent saisies l'an passé 14 tonnes de cocaïne.
Les ports, Éric, sont justement les zones d'entrée privilégié de la drogue.
Et oui, Florence, en effet, car l'activité portuaire française, pour se maintenir face à la concurrence mondiale, doit être fluide et les contrôles rapides. Comment contrôler des milliers et des milliers de conteneurs qui arrivent jour et nuit dans nos ports? Les narcotrafiquants s'adaptent sans cesse, explique dans le 1 l'économiste Clotilde Champérache. Dès que le Havre a fait l'objet d'une plus grande surveillance, on a vu des arrivées de la marchandise sur des ports de moindre envergure, comme Dunkerque, Montoire-de-Bretagne ou La Rochelle. À Marseille, où la drogue arrive à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est souvent dissimulé dans des conteneurs transportant du charbon de bois venu d'Afrique. Et comme l'explique le journaliste Philippe Pujol, grand connaisseur de cet univers, les moyens de contrôle sont faibles, les chiens ne sentent rien et le scanner est aveugle. Et pour cause, la drogue et le charbon ont la même densité. Et Pujol de poursuivre, le charbon, métaphore parfaite pour parler de la vente de la drogue, les trafiquants disent charbonner. Moi, dit-il, les minots des cités, je les appelle les mains noires. Ce sont les nouveaux mineurs, c'est sale. C'est compliqué, c'est dangereux, comme le travail des mineurs de fond.
On parle, Éric, d'une mexicanisation de la France. On dit narcomicide, narcobanditisme. Cette surenchère sémantique est-elle justifiée? C'est la question que vous posez alors que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, veut enfermer les narcos avec les djihadistes dans une prison ultra sécurisée Cayenne.
C'est ça. Je vous recommande l'entretien que nous a donné le journaliste Philippe Pujol, prix Albert Londres 2014, pour ses reportages sur les quartiers nord de Marseille et qui récuse ces termes de mexicanisation ou de narco-racaille. À ses yeux, la France ne subit pas la loi de trafiquants venus d'ailleurs, mais c'est l'inverse. Autrement dit, c'est parce que le fonctionnement de la République est déréglé que le trafic peut prospérer sur les lésions de notre société. Ce trafic, affirme-t-il, n'est pas la cause, mais le symptôme du délitement de la société française.
Éric Fotorino du 1 Hebdo. À la semaine prochaine.
Merci,
à la
bien
semaine
sûr,
prochaine,
Florence.
Éric. C'est une chanson, je me tourne vers vous, Frédéric Pommier. Votre invité aujourd'hui est à la fois dramaturge, réalisateur, plasticien et metteur en scène. C'est Mohamed El-Khatib.
Une rétrospective de son œuvre est en ce moment présentée au Grand Palais à Paris. Des expos, des spectacles, des rencontres, des projections. Le tout réunit sous ce titre le Grand Palais de ma mère. Et avec lui, nous avons parlé d'une chanteuse qu'adorait justement sa mère, la diva égyptienne Oum Kalthoum.
On dit d'elle que c'est l'astre d'Orient. Et nous, c'est un peu l'astre familial parce que c'est ma mère qui régissait le radiocassette. Et on avait Oum Kalthoum en boucle à la maison. Donc elle a bercé toute mon enfance.
Votre enfance, c'était à quel endroit?
C'était dans le Loiret, à Beaugency. Mais mes parents sont originaires du Maroc, de Tanger. Et Oum Kalthoum est égyptienne, mais en réalité, c'était la représentante de tout le monde arabe.
Ce radiocassette, il était dans quelle pièce?
il était dans la cuisine. Donc il y avait deux endroits où on profitait de Mkaldum, c'était dans la cuisine et puis dans la voiture. Et notamment dans le fameux retour au bled où tous les étés faisaient 2000 km embarqués avec Mkaldum dans la voiture.
C'était quelle voiture ?
Alors c'était d'abord une Renault 12, puis Renault 14, puis Renault 21. C'était la tendance des années 80-90.
Ça ressemblait à quoi ces voyages-là ? Et il y avait qui dans la voiture ?
Il y avait mes sœurs, on était une grande fratrie, on était 5 enfants. C'était un peu le retour à Ithaca, quoi. C'est vraiment le voyage mythique. 2000 km sans GPS, sans climatisation. C'était un périple où on mettait quasiment 2 ou 3 jours pour retourner au Maroc. Et aujourd'hui, quand je réentends une chanson de Mkaldum, je me replonge dans cette enfance, pour le coup, heureuse, quoi. J'ai adoré. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment d'appartenir à une histoire collective. D'un coup, on était des milliers à prendre la route comme ça. On se reconnaissait et c'était joyeux.
Vous vous reconnaissiez parce que les voitures se ressemblaient aussi ?
Les voitures se ressemblaient par leur chargement. C'est-à-dire qu'elles étaient surchargées, ces espèces de tours de Babel roulantes, des espèces de Renault 12 cathédrales qui regorgeaient de bagages et de cadeaux pour retrouver la famille de l'autre côté de la Méditerranée.
Cette chanson qui vous met peut-être, comme à nous, les poils au garde à vous, Frédéric, en tout cas la chair de poule. Cette chanson d'Mkaldum, on peut dire Mkaldum aussi, elle est sortie au milieu des années 60.
Elle s'appelle Anta Omre et c'est l'une des chansons préférées de Mohamed El-Khatib.
Anta Omre, c'est tu es ma vie, en fait. Tu es ma vie, je suis ta vie. Je repense à cette phrase de Roland Barthes qui, à la mort de sa mère, a dit beaucoup d'êtres m'aiment encore. Mais ma mort ne tuerait aucun d'entre eux. Et j'ai ressenti ça un peu à la mort de ma mère, c'est-à-dire qu'effectivement je suis très entouré, mais il y a une espèce d'amour inconditionnel de la mère qui fait que cette chanson, elle s'adresse non pas à l'intellect, mais au trip, quoi. C'est-à-dire que moi, dès que j'entends Mkaldum, en vrai, c'est une émotion puissante et les larmes sont jamais loin.
Cette chanson, son titre, c'est donc « Tu es ma vie ». Vous, vous avez eu l'impression que votre mère, elle était votre vie ?
En tout cas, elle a occupé une place importante, voire centrale, mais aussi dans ma vie artistique, c'est-à-dire que le premier spectacle qui m'a révélé, pour ainsi dire, au monde, parce que j'ai joué cette pièce partout, qui s'appelle « Finir en beauté », cette pièce, elle racontait la fin de vie de ma mère. Et c'est comme si sa mort, à la fois, était paradoxalement un acte de naissance, et comme si elle m'avait fait ce cadeau de raconter cette fin de vie, de raconter ce qui a été sa vie et sa mort, qui m'a fait connaître un peu partout dans le monde et qui fait que c'est ma mère qui m'a fait voyager d'une certaine façon.
Elle ressemblait à quoi, votre mère ?
Elle était assez solaire, très calme, très posée. Elle avait ce que j'appelle le sens de l'hospitalité, c'est-à-dire que la porte était toujours ouverte à la maison. Et elle était très belle.
Elle est présente chaque fois que vous entendez Mkaldum ?
Oui, oui. C'est-à-dire qu'il suffit de 2 accords, de quelques paroles, et elle est là. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai une petite fille de 8 ans, et elle commence à avoir ce réflexe. Alors souvent, on se dit « Ah, la Renault 12, elle l'associe à son papy. » Et quand, de temps en temps, à la maison, j'ai remis une chanson d'Mkaldum, elle dit « Ah, c'est la chanson de mamie. » Et ça me touche beaucoup parce que elles se sont pas connues. Et donc, quelque part, la chanson, la musique est un lien possible entre les générations.
Mkaldum Anta Omre, c'était donc Frédéric, le choix de l'artiste Mohamed El-Khatib. On a entendu son émotion. Hein.
Mohamed El-Khatib, dont vous pouvez actuellement découvrir ou redécouvrir le travail au Grand Palais à Paris, dans une rétrospective qui se tient jusqu'à fin juin et qui a donc pour titre Le Grand Palais de ma mère.
Frédéric Pommier, merci. Le 13-14 est en train de refermer ses portes. Demain, Jérôme Cadet vous attend à Fort Boyard, le Vénard. Et vous, Mathieu Vidard, qu'est-ce que vous faites dans la tête au carré aujourd'hui ?
Eh bien, on va se mettre dans la tête des cochons, Florence, aujourd'hui.